En écoutant le discours politique et la manière dont le discours politique tord les réalités économiques, les réalités sociologiques et les réalités factuelles, je me dis que c'est un peu regrettable que les économistes soient complètement sortis de la discussion politique, puisque beaucoup de sujets politiques ont des ressorts économiques fondamentaux. Et je pense que c'est possible et j'espère y jouer un petit rôle.
Elle est comme ça, Esther Duflo, notre prix Nobel. Là, c'était en juillet, chez nos amis de France Culture. Oui, Esther Duflo, elle est directe. La vérité, selon elle, c'est que la plupart des politiques publiques sont basées essentiellement sur les intuitions, rarement sur les connaissances. Esther Duflo, économiste de combat, économiste politique, son terrain, c'est la planète, sa cible, la lutte contre la pauvreté. Les connaissances dont elle parle se résument en fait à une question. Quel est le problème au fond? Santé? Éducation? Alimentation? Reproduction? Mais oui, demande-t-elle, pourquoi les pauvres font tant d'enfants? La moustiquaire, est-ce qu'il vaut mieux la donner aux pauvres ou la leur vendre? Dans cette économie-là, il y a du pourcentage, mais pas que. Il y a aussi de l'humain, de la culture. Et donc, il y a des réponses précises à des problèmes très circonscrits. Parce que oui, il y a des politiques qui fonctionnent et des allocations nécessaires, et puis d'autres pas. Et si en effet, à la fin, on obtient cette connaissance-là pour guider l'action publique, alors peut-être sortira-t-on enfin du débat sur l'assistanat.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et en ce moment, son laboratoire en Europe, ça s'appelle JEPA, le Poverty Lab, travaille sur l'inclusion sociale avec une question: quels sont les meilleurs moyens d'intégrer les migrants et les réfugiés? Bienvenue, c'est le Mag Éco, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. La réalisation de ce magazine est signée Coy Nguyen. Valentin Pérez est attaché de production et à la technique ce matin, Pierre Faucillon nous accompagne. Le débat du jour, il est entre les mains des historiques Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques. Bonjour Christian.
Bonjour à tous.
Wagon numéro 1, wagon numéro 2, il est là, Emmanuel Le Chypre de BFM Business. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Ce prix Nobel d'économie, ça se discute et ça sera avec vous messieurs dans une poignée de secondes. On va aussi s'intéresser ce matin à la gig economy, vous savez l'économie des plateformes type Uber, Deliveroo, ces entreprises du numérique qui travaillent avec des micro-entrepreneurs. Alors ça, c'est le modèle, mais il est sérieusement sous pression. Quel statut, quelle protection demain pour les chauffeurs VTC? Vous entendrez le reportage d'Anna Elverzo. Et puis notre invité, c'est le directeur général d'Uber pour la France, Steve Salom. Voyez, on fait un petit tour sur vos plates-bandes sociales, Sandrine Foulon. Bonjour.
Bonjour Alexandra.
Ma vie au boulot, qui vous a écrit ce samedi?
Alors Olivia, sur le dossier des retraites, on a beaucoup parlé cette semaine de la clause du grand-père.
Ouais, qu'est-ce que ça veut dire?
Juste, ouais. Je dis ça tout à l'heure.
On se retrouve juste avant 10h. Tout de suite, Esther Duflo, prix quoi exactement, Christian Chavagneux?
La Banque de Suède, en mémoire d'Alfred Nobel, Nobel n'ayant jamais laissé un seul centime pour faire croire que les économistes étaient des scientifiques.
Chaque année, on l'a fait, chaque année.
Il n'y a plus que vous et BFM Business qui disent prix Nobel d'économie. Tout le monde, pour le reste, dit prix de la Banque de Suède en mémoire d'Alfred Nobel.
Christian, je ne crois pas, mais on va en parler dans...
Ça n'a quand même aucune importance.
C'est-à-dire bon, que... Si.
Non, mais la seule chose qui compte, c'est que c'est le prix le plus prestigieux au monde qui récompense des économistes, point barre, qui s'appelle prix de la Banque de Suède, prix Nobel ou prix Bidule. Franchement, on s'en fout un peu.
Bon, moi j'aurais tendance à dire aussi que ça n'est pas moins glorieux. Allez, on écoute Esther Duflo, c'était chez nous, dans On n'arrête pas l'écho, au moment où elle a sorti son livre « Repenser la pauvreté », on lui a demandé d'accord, mais comment ?
Souvent, quand on pense à la pauvreté ou aux pauvres, on y pense sous une forme de caricature. On a le pauvre affamé, le pauvre entrepreneur, le pauvre sans vertu selon les époques et les personnes. Repenser la pauvreté, c'est essayer de mettre un peu toutes ces caricatures ensemble pour que ça devienne une image plus complète, plus complexe, mais aussi plus réaliste. Souvent, quand on parle de pauvreté, on se fixe l'objectif, on va essayer de l'éradiquer. Éradiquer la pauvreté qui, en fait, ne veut pas dire grand-chose comme formule. Et a un côté un petit peu décourageant. C'est-à-dire, quand on réfléchit, presque 1 milliard de gens qui vivent avec 1 dollar par jour, comment on va y arriver? C'est pas les 20 euros que quelqu'un donne à la fin de l'année qui vont changer ça. Et nous, on veut lutter un petit peu contre ce découragement en disant, arrêtons de penser à la pauvreté avec un grand P et pensons à tous les problèmes qui sont liés au fait d'être pauvre. Par exemple, comment faire en sorte que tous les enfants aillent à l'école régulièrement? Comment faire en sorte que quelqu'un qui a une petite entreprise puisse la financer? Comment faire en sorte que les gens soient couverts contre les graves accidents de santé? Tout ça, c'est des problèmes qui deviennent beaucoup, beaucoup plus concrets, beaucoup, beaucoup plus spécifiques et qui donc ont des réponses concrètes et spécifiques.
Emmanuelle Lechypre, Esther Duflo, ça n'est pas du tout une inconnue. On la connaît, là c'était une interview en 2012, on la connaît depuis un certain temps.
Oui, c'est sans doute l'économiste femme, en tout cas la plus connue quasiment, la plus médiatique au monde. Hein. Elle est jeune, elle a quand même son prix Nobel à 46 ans. C'est la première fois que un prix de la truc de Banque de Suède là, est décerné à quelqu'un d'aussi jeune. Alors elle est élevée et éduquée en France, ça c'est incontestable. Hein. Sa mère est pédiatre, son père est mathématicien, c'est une famille protestante. Alors les arcanes de l'Académie française, si vous voulez, se réjouissent du fait que c'est la, elle a fait normal sup, hein, donc c'est la deuxième normalienne à avoir le prix Nobel d'économie, et donc elle égalise par rapport aux polytechniciens. Il y a 4 prix Nobel français, hein, Gérard Debreu, Maurice Allais, Jean Tirole et Esther Duflo. Et Esther Duflo est normalienne comme Gérard Debreu, et donc il y a pas que les polytechniciens qui produisent des prix Nobel. Et c'est ce qui est intéressant quand même, c'est de voir que au départ elle se dirige vers l'histoire, hein, c'est pas l'économie. Elle travaille sur la NEP, la politique économique de Lénine, etc. Et puis
elle a passé du temps en Russie, oui.
Voilà. Et puis Daniel Cohen, qui a été son maître à Normal Sup, l'a fait s'intéresser. Thomas Piketty aussi, avec qui elle travaille à l'économie. Et puis là, après, elle va partir aux États-Unis. Elle va travailler avec Jeffrey Sachs, qui est une des sommités de toute la théorie
économique du développement,
sur le développement. Et puis là, effectivement, elle a cette approche assez originale, expérimentale. Alors, qui demande des moyens, paradoxalement, hein, parce que quand vous voulez faire des expérimentations sur le terrain en Inde, etc., c'est un peu plus compliqué que de faire des équations sur son ordinateur. Et donc du coup, bah forcément, elle va devoir faire du fundraising un peu quelque part. Et donc elle est originale. Barack Obama lui demande de devenir sa conseillère au développement, et c'est comme ça qu'elle a ce parcours assez incroyable.
Et qu'elle est récompensée, alors il faut le dire avant de passer la parole à Christian, avec ses co-auteurs Abhijit Banerjee et Michael Kremer.
Alors, pour faire un peu people, ce qui est drôle, c'est qu'Abhijit Banerjee et son mari, et je crois que c'est la première fois depuis Pierre et Marie Curie que vous avez un couple qui est récompensé du prix Nobel.
Bon, moi je ferai aucun commentaire là-dessus. Christian Chavagneux.
Oui, donc les trois économistes ont eu le prix. Pourquoi ? Pour leur approche expérimentale permettant de réduire la pauvreté mondiale. Donc c'est pour leur méthode, hein, qu'ils ont eu le prix. Il y a trois sources de réjouissance. Bien sûr, l'âge moyen, ça fait 50 ans, hein, que la Banque de Suède donne son prix. L'âge moyen des lauréats, c'était 69 ans. Donc là, on a Banerjee, il a 58 ans, Kremer 54, Duflo 46, Emmanuel l'a dit, donc ça rajeunit un peu, ça fait du bien. On n'avait qu'une seule femme lauréate en 50 ans, ça fait deux, ça fait du bien. Et le mot pauvreté, vous savez combien de fois en 50 ans il avait été utilisé pour donner la récompense ? Une seule fois. Ça fait deux. Bon, voilà, donc on a trois sources de réjouissance. Et en plus, Angus Deaton, par exemple, qui était le prix de la Banque de Suède 2015, aussi travaillait sur ces sujets. Ça veut dire que du côté des jurys, de la reconnaissance des économistes, on se dit, les questions d'inégalité, de pauvreté, ça compte, et ça c'est vraiment bien. Pour autant, on peut pas en rester là et dire « Ah, c'est une femme, elle est française, c'est des jeunes, c'est super ». Non, la question de fond qui se pose, c'est est-ce que la méthode, puisque c'est pour ça qu'ils ont eu la récompense, est-ce que la méthode développée par ces économistes permet vraiment de définir des politiques qui amènent vraiment à une réduction de la pauvreté ? C'est ça la question de fond. Et là, il y a deux économistes français. Il se trouve qu'on a deux économistes français qui s'appellent Arthur Jatteau et Agnès Labrousse, qui sont les meilleurs spécialistes, au moins français, si ce n'est européen, si ce n'est mondiaux, de la méthode de Banerjee et Duflo. Alors, et là, ils sont très critiques.
On va en parler, mais d'abord, il faut expliquer la méthode. Donc, c'est une méthode de randomisation, c'est-à-dire d'expérience aléatoire. On l'appelle la randomista, Esther Duflo. Vous nous l'expliquez, cette méthode, Emmanuel Lechypre ?
Bah, disons, pour faire très simple, alors ce qui est fascinant, c'est que c'est une méthode qui est inspirée de la biologie. Et alors, ce que je trouve, moi, génial, c'est que, vous savez, on sent que les économistes, ils ont toujours eu, Christian le dit, à travers le nom du prix, etc., cette espèce de complexe d'infériorité. Ils veulent que leur discipline soit reconnue comme une science. Et donc, on a eu une première voie qui était l'abstraction. Hein, la modélisation. Et donc, il y a beaucoup d'économistes, notamment des prix Nobel, qui ont été récompensés pour leur abstraction, les modèles, etc. Et là, je trouve que c'est une autre façon complètement différente d'aller chercher quelque part la légitimité scientifique en reprenant des pratiques d'expérimentation de la biologie. Hein. C'est simple, c'est pour faire très simple, c'est de prendre des échantillons témoins, des échantillons tests avec des échantillons différents pour voir si finalement vous obtenez des résultats. Par exemple, vous voulez mettre un programme de soutien scolaire en place et voir s'il est efficace. Vous prenez un échantillon de 200 écoles.
C'est ce qu'ils ont fait au Kenya.
Voilà, oui. Vous tirez 100 écoles au hasard, vous appliquez le programme et à la fin, vous regardez comment les élèves, finalement, est-ce qu'ils réussissent mieux que les élèves des 100 autres écoles qui n'ont pas appliqué le programme. Voilà, et c'est le cœur de la méthode, c'est ça, c'est de faire comme on fait en biologie, hein, des échantillons tests. Et alors après, effectivement, on peut leur reprocher que le problème, c'est qu'en biologie, vous pouvez, par exemple, de façon très stricte, n'isoler qu'un seul paramètre différent entre deux échantillons. Enfin, vous pouvez avoir un échantillon de souris qui a telle caractéristique et toutes les mêmes caractéristiques, sauf une. Et voilà. Mais le problème, c'est qu'en économie, vous n'avez jamais ce cas de figure. Et puis, c'est compliqué de faire des échantillons, etc. Donc, c'est la limite un petit peu de la méthode.
Allez-y, Christian. Il est très remonté, lui, sur la limite.
Que la limite, il y a plein d'autres. D'abord, c'est vrai que c'est utilisé en clinique, en biologie, en médecine, tout ça. Mais c'est utilisé dès les années 20 en sciences sociales aussi. On connaît ça. Donc, ça a complètement disparu. Les économistes, tout le monde a dit non, ça nous intéresse pas. Et c'est effectivement Duflo, Banerjee, etc., qui ont remis ça à l'ordre du jour. Ils ont récupéré une vieille méthode qui existait déjà. Ça doit suivre l'expérimentation, une méthode très très précise. Hein, faut vraiment que les enfants, les adultes soient tirés de manière aléatoire. Parce que sinon, il y a des biais de comportement. Or, quand vous regardez concrètement comment ça se passe, c'est jamais vraiment complètement aléatoire. Il y a, quand on fait les calculs, ça donne pas les mêmes résultats. Par exemple, l'équipe Banerjee, Duflo, etc., c'est surtout Kremer, en fait, le troisième, il va voir si on donne des vermifuges aux enfants, est-ce qu'ils sont plus présents en classe. Et il dit oui. Donc, vous avez des politiques publiques, des millions d'euros qui sont dépensés pour distribuer des vermifuges. Vous avez des épidémiologistes qui viennent derrière refaire les mêmes calculs, ils disent que non, ça marche pas. Donc, voyez, c'est pas forcément la bonne politique. En plus, on n'explique rien. Les manuels scolaires, vous donnez des manuels scolaires à une classe, vous ne donnez pas des manuels scolaires à une autre, et vous apercevez que même la classe qui a les manuels scolaires dans les pays du Sud, ils n'ont pas de meilleurs résultats. Pourquoi ? Est-ce que les manuels ne sont pas adaptés ? Est-ce que les profs ne sont pas adaptés ? Est-ce que les profs les ont mal utilisés ? Avec la méthode Duflo, Banerjee, Kremer, vous n'en savez rien, vous ne pouvez pas progresser, vous ne pouvez pas capitaliser sur ce que vous apprenez expérience après expérience. Difficile de transposer les résultats. Ça marche au Kenya, dans l'est du Kenya, est-ce que ça va marcher à l'ouest du Ghana ? Mais vous n'en savez rien du tout. Le coût, Emmanuel l'a abordé, mais vous savez qu'il y a des études, si vous vraiment voulez faire une étude un peu importante, ça coûte plusieurs millions d'euros. Il y en a des cas où les coûts de l'étude sont supérieurs au coût du traitement. Donc, vous auriez pu mettre l'argent pour aider les gens, mais non, vous avez donné l'argent au GEPAL, vous l'avez dit, c'est le labo de Banerjee, etc. Et pour eux, surtout, c'est la seule méthode valable. La seule méthode valable. Du coup, ils écartent toutes les autres types de méthodes.
Moi, je vous trouve très sévère, parce que j'ai entendu son discours à MIT.
Elle dit tout le contraire.
Elle dit le contraire. Hein. Et puis, écoute, je l'ai entendu aussi chez nous, dans le trésor de Bruno Duvic.
Oui, d'accord, quand elle parle, mais seulement quand vous êtes sur le terrain et que vous voulez avoir de l'argent pour pouvoir faire vos études qui sont pas allées avec la méthode GEPAL, ben c'est très très difficile. Je vous donne un dernier exemple.
Allez-y.
Qui paraît vraiment très très fort, c'est que l'Agence française de développement, c'est le bras armé de la coopération française. Ils ont dit waouh, la méthode expérimentale du GEPAL, c'est génial. Ils ont mis beaucoup d'argent, ils ont fait beaucoup de terrain et ils ont dit non, c'est tellement pas bon qu'on arrête complètement cette méthode. Donc la coopération française a décidé de pas passer par cette méthode parce qu'elle est pas efficace sur le terrain, ils l'ont testée.
Bon, Christian Chavagneux, assez violent. Emmanuel, le mot de la fin.
Oui, parce que je trouve que c'est quand même il y a une partie des critiques qui est justifiée effectivement sur la difficulté à généraliser, etc. Mais enfin, il faut quand même voir d'où on vient. Est-ce que les politiques pour le développement qui étaient mises en place jusqu'à maintenant, ces grandes politiques structurelles, etc., marchaient si bien que ça méritait pas qu'on essaye autre chose? Franchement,
voilà. Qui marchait.
Très très peu. Et puis après tout, est-ce qu'on peut lui reprocher d'avoir une approche modeste de l'économie? Son ambition, c'est pas d'éradiquer la pauvreté, c'est au moins d'améliorer le sort des pauvres. C'est déjà pas si mal. Si elle a changé la vie de quelques centaines de milliers de personnes, c'est pas si mal. Et puis oubliez pas un truc qui est quand même fondamental, c'est que le prix Nobel à Esther Duflo, moi je peux vous dire que toutes les réactions qu'on a vues toute la semaine, je peux dire que ça va susciter un enthousiasme chez les jeunes économistes et ça va fabriquer une génération. Moi, ça va fabriquer un engouement pour l'économie et les économistes, et je dis ça au moins, c'est aussi une très bonne nouvelle.
Allez, deux regards très contrastés sur ce prix Nobel, ça fait toujours plaisir. Cette semaine, elle a été riche en actualité. Christian Emmanuel, on a aussi eu un nouvel accord sur le Brexit, l'accord de « Alors, comment est-ce qu'on divorce ?» qui a été négocié entre Londres et Bruxelles.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
17 octobre 2019.
C'est maintenant le moment décisif
Boris Johnson
pour qu'on fasse le Brexit.
Premier ministre britannique.
Et qu'ensuite, ensemble, on travaille à la construction de notre futur partenariat. Je pense qu'il peut être incroyablement positif pour le Royaume-Uni comme pour l'Union européenne. Merci beaucoup.
Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne.
Je dois dire que je suis heureux de cet accord, mais je suis triste pour le Brexit.
Nous avons donc trouvé un accord,
Michel Barnier,
avec le gouvernement britannique,
négociateur du Brexit pour l'Union européenne,
sur le retrait ordonné du Royaume-Uni de l'Union européenne et aussi sur le cadre de notre future relation. Ce texte, mesdames et messieurs, permet d'apporter de la sécurité juridique, de la certitude, partout là où le Brexit crée, comme toute séparation, de l'incertitude. Et d'abord, pour les citoyens.
Christian Chavagneux, cet accord de divorce, comment est-ce qu'on... qu'est-ce qu'il y a dedans?
Il y avait trois problèmes à résoudre. Pas de frontières physiques entre les deux Irlandes. On rappelle le terrorisme, on ne veut pas retrouver ça. Donc, le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne, mais l'Irlande du Nord va continuer à appliquer une partie des règles du marché unique européen pour les biens et les services qui iront vers l'Union européenne. Deuxième problème, il fallait pouvoir... Vous savez que le Royaume-Uni veut signer des accords commerciaux de libre-échange avec les États-Unis et le reste du monde. Ils veulent pouvoir appliquer les résultats de ces accords avec tous les produits qui vont rentrer. Donc il va falloir faire une différenciation entre ce qui va en Europe, pas en Europe, ce qui est négocié par ailleurs. Il y a des clés dans l'accord. Enfin, il fallait s'engager à ne pas se lancer dans une politique de moins-disant sociale, fiscale, réglementaire. Theresa May avait dit oui, Boris Johnson avait dit non. Finalement,
ça,
Boris Johnson dit oui.
Dit
oui, on ne va pas, on s'engage à ne pas se lancer dans ce type de politique. Voilà ce qu'il y a dans l'accord.
On a en ligne avec nous ce matin quelqu'un qu'on ne présente plus tellement on l'entend et on l'écoute sur France Inter et sur toutes les antennes de Radio France. C'est Antoine Gignot, notre correspondant au Royaume-Uni. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Antoine, chez vous, que disent ce matin ceux qui s'intéressent aux conséquences économiques? Est-ce que ce deal numéro 2, parce que c'est le numéro 2, est-ce qu'il est mieux ou est-ce qu'il est moins bien que le number 1?
J'ai envie de vous répondre, ça dépend un peu du point de vue. En fait, si vous posez la question aux anti-Brexit, clairement, c'est beaucoup moins bien. Le think tank UK Not Changing Europe explique par exemple que l'accord de Theresa May aurait eu un impact sévère sur l'économie s'il avait été validé, avec une baisse de revenus par habitant d'1,7%, mais avec l'accord de Boris Johnson, il table sur une baisse de 2,5%, soit en moyenne, ils ont fait le calcul, 2300 euros de moins par personne et par an. Vous posez à l'inverse la question aux Brexiteurs durs, ceux qui veulent une sortie totale de l'Union européenne, eh bien eux mettent en avant les futures opportunités, la possibilité de conclure de nouveaux accords, notamment avec l'Asie, plus de souplesse pour les entreprises, parce que dans l'accord de Theresa May, il était écrit noir sur blanc que le Royaume-Uni devait rester le plus proche possible des réglementations et des taxes européennes. Dans la version de Johnson, ce paragraphe a disparu du texte juridique, il a été déplacé, glissé dans la déclaration politique, qui n'a pas de valeur contraignante, c'est juste un cadre, un point de départ pour les futures négociations, et c'est donc beaucoup moins difficile pour les entreprises, et notamment pour les services, de se lancer dans de nouvelles entreprises, dans de nouvelles aventures.
Antoine, est-ce que ça veut dire qu'un concurrent à nos portes, on a beaucoup évoqué le Singapour sur Tamise, est-ce que ça serait crédible ?
Pas tout à fait quand même, parce que une île totalement dérégulée qui fasse du dumping social, qui serve d'îlot bancaire pour les pays de l'Union, en théorie, Boris Johnson l'a totalement exclu. D'abord parce qu'il a besoin du soutien des députés travaillistes pour faire passer son texte, et que pour les séduire, il a promis, notamment ces dernières heures, plusieurs fois à la télévision, de ne pas toucher aux acquis sociaux et aux droits du travail. Après, reste à savoir ce que deviendront ces promesses.
Mais Antoine, le Brexit avec deal, ça n'est pas encore fait.
Absolument pas, non. Parce que malgré la séance qui a lieu aujourd'hui, Boris Johnson n'a pas la majorité absolue au Parlement. Il lui manque une dizaine, peut-être une vingtaine de voix. Et puis parce que les anti-Brexit ont déposé en urgence hier soir une motion qui, si elle est validée par les députés, obligera les parlementaires à examiner tous les points de l'accord un par un avant de les transcrire dans la loi britannique et d'organiser le vote final. La procédure pourrait prendre des semaines, vous imaginez le travail. Elle pourrait même obliger Boris Johnson et le gouvernement a demandé un nouveau report à l'Union européenne, situation ubuesque où on ne sortirait donc pas le 31 octobre de l'Union.
Ubuesque, mais comme vous avez raison Antoine Gignot, merci. En direct avec nous depuis Londres, Emmanuel Lechypre, ça n'est pas terminé votre regard sur le Brexit.
Non, c'est sans doute loin d'être terminé, parce que sur le plan économique, le diagnostic, il est assez simple. Hein, Antoine l'a bien expliqué, c'est perdant-perdant. Hein, grosso modo, le Royaume-Uni va perdre. Enfin, attendez, on est quand même déjà, on n'est pas sorti encore. Et depuis 2016, la perspective du Brexit, ça coûte déjà 1000 euros par an à chaque ménage britannique. Et puis nous, ça a coûté aussi déjà à des entreprises, des gels de projets d'investissement, etc., etc. Donc sur le plan économique, c'est clair que c'est perdant-perdant. Après, il y a une logique politique qui est terrifiante, une espèce d'escalade dans laquelle chacun a une ambition qui va conduire sans doute, peut-être, à de nouvelles aventures, nouveaux reports, etc. Donc je pense qu'on est très très loin d'en avoir fini avec ce Brexit. Surtout que ce qu'il faut bien rappeler, c'est que dans l'accord qui a été pré-signé, enfin qui a été validé à Bruxelles, c'est juste l'accord pour divorcer. C'est-à-dire que toutes les règles qui vont régir après nos futures relations, il va falloir les écrire. Michel Barnier a dit qu'il souhaitait que ce soit fini avant la fin 2020, mais il a dit peut-être 1 ou 2 ans de plus. Donc là encore, tout est à faire.
Christian Chavagneux, il faut écrire les règles dans la finance. Vous savez qu'à chaque fois qu'il y a des actions d'entreprises françaises qui sont échangées, 60% ça se passe sur la place de Londres. 99% des produits financiers spéculatifs dans lesquels il y a l'euro, ça se passe à Londres. Donc vous imaginez ce divorce. Si nous, on veut être sûr que notre finance et nos banques font pas n'importe quoi, il va falloir qu'on ait vraiment un contrôle. En mars 2019, les Européens et les Britanniques ont dit « on va se mettre d'accord jusqu'en mars 2020 ». Donc, qu'est-ce qui se passe après mars 2020? A priori, on va prolonger l'accord entre les deux places financières pour que même en cas de divorce, ça se passe bien. En tout cas, ce qui est sûr, moi, je suis persuadé que dans 50, 60 ans, quand on va revenir sur le sujet, on dira la City, premier centre financier mondial, s'est autodétruit avec ce Brexit et que l'influence mondiale et financière de la City va plonger. Déjà, 30% des acteurs, enfin, de tous ceux qui sont partis de l'Angleterre, 30% sont partis à Dublin, 20% à Luxembourg, 15% à Paris. On voit que ça, le système financier puissant, premier centre financier mondial, est en train d'éclater dans le reste de l'Europe. La Cité est en train de s'autodétruire.
Emmanuel,
c'est vrai que la menace qui est brandie, là, cette singapourisation d'avoir une espèce de paradis fiscal à nos portes, mais la réalité, c'est que sur le plan financier, Londres, c'est déjà un paradis fiscal.
Un peu, ouais, mais sur, et en plus, ça va beaucoup se réduire.
C'est déjà un paradis fiscal. Et puis, quand on dit, est-ce qu'ils vont pouvoir appliquer des règles totalement sauvages? Bah non, parce qu'il y aura peut-être plus les règles européennes à adapter, mais après, il y a tous les autres règlements que le Royaume-Uni devra bien respecter. Les réglementations internationales de l'OCDE, du G20, la Banque des règlements internationaux. Voilà. Et moi, je vais vous dire, le scénario le plus probable, pour moi, c'est que les futures règles qui seront écrites vont converger vers les règles anciennes. C'est-à-dire qu'on va retrouver des règles de fonctionnement qui seront à peu près les mêmes quand on se sera repaxé que celles qu'on avait quand on était marié.
Oh, c'est joliment dit.
Et ça résoudra le problème des contrôles à la frontière irlandaise.
On va suivre ça. Emmanuel Lechypre, Christian Chavagneux, les débatteurs du samedi. Allez, dans la prochaine demi-heure, Steve Salom, le directeur général d'Uber pour la France, est notre invité. Le modèle économique et social de la gig économie en question. Et c'est vrai que depuis 10 ans, les plateformes, elles ont changé notre organisation du travail. Tenez, il suffit de discuter avec Ali dans sa voiture noire. Avant, on aurait dit Ali le taxi, et maintenant on dit Ali le VTC.
Alors, tac, Uber.
Alors là, du coup, si vous vous connectez à l'application, donc Uber...
Ouais, c'est simple, j'appuie sur Go, et automatiquement, je suis en ligne. Je circule dans Paris.
Et puis vous attendez...
De recevoir une course.
Ali, en attendant que vous receviez une course, on va se présenter un peu. Vous vous appelez donc Ali et vous faites ce métier donc de chauffeur VTC,
depuis 4 ans. Au départ, j'ai connu ce métier via Uber. C'est un bouche à oreille, je voulais pas aller au chômage. C'est vrai que l'avantage, c'est quand j'ai quitté mon métier le vendredi, le lundi, j'ai commencé avec Uber. Il y a 4 ans, c'était une facilité. C'était du jour au lendemain, on avait une voiture et puis hop, il y avait l'application et on démarrait, ça y est. C'était l'opportunité de rentrer dans un système. Et en plus, on est rémunéré à la semaine. Donc, au bout d'une semaine, vous avez de quoi faire vos courses et remplir le frigo.
Le mois dernier, vous avez gagné combien?
Alors, pour le mois de septembre, c'était un bon mois parce qu'il y a eu la Fashion Week. Mais moi, je ne calcule pas comme ça. Moi, qu'est-ce qui se passe? Dans ma société, je me fais des fiches de paye. Je me sors un salaire. Et même quand je n'arrive pas à le sortir, je paye l'URSSAF.
Donc, du coup, ça vous fait combien sur l'année?
Je suis sur 1700 brut et ça me fait un salaire net de 1340 euros net par mois.
1340 euros.
Et encore, je déclare les 35 heures par semaine alors que je fais 60-70 heures.
Combien de jours par semaine vous travaillez?
7 jours sur 7.
7 jours sur 7?
7 jours sur 7.
VTC pour véhicule de tourisme avec chauffeur. Aujourd'hui, il y a plusieurs plateformes, hein, Captain, Snapcar, Marcel. Mais c'est vrai que c'est Uber qui a fait grandir le concept en arrivant en France en 2014. Alors la première particularité, c'est le statut. Les chauffeurs des plateformes sont micro-entrepreneurs, ni propriétaires, ni salariés. Est-ce que c'est juste ? Aujourd'hui, les pouvoirs publics, les juges, mettent la pression. Qui doit payer pour la protection sociale des chauffeurs ? Quelle rémunération minimale doit-on ou pas leur assurer ? On est peut-être à la croisée des chemins. Allez, en voiture, tout le monde sur la banquette arrière, avec notre reporter Anaël Verzo. Ali, lui, il est toujours au volant.
Ah, on reçoit une course. Regardez, gare Montparnasse, 6 minutes. Alors, 0,9 km, ça fait 900 mètres. Alors, j'accepte, mais vous voyez, j'ai pas la destination. Je sais pas où le client va.
Dirigez-vous vers le nord-est.
Maintenant, ils mettent la destination, mais après acceptation.
Voilà, vous avez ça, la destination qui s'affiche et le prix qu'il a payé.
Mais après acceptation. Alors, par exemple, un chauffeur qui trouve que cette course n'est pas rentable, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va annuler. Et après, qu'est-ce qui se passe quand il y a un taux d'annulation qui est trop importante ? Uber bloque ce chauffeur, bloque ce compte. C'est une mise à pied du chauffeur. On est les dindons de la farce.
Alors, Ali, vous, est-ce que vous aimeriez être salarié ? Ou est-ce que vous souhaitez rester indépendant?
Ah non, moi je milite pour l'indépendance, c'est clair. Au départ, c'est une vraie indépendance. Mais on nous a menti. On nous a dirigé sur une indépendance qui est une fausse indépendance.
Avec les plateformes,
c'est ça? Avec les plateformes, oui, avec les plateformes. Par exemple, un client va se plaindre à la plateforme, le chauffeur automatiquement se fait déconnecter. Il y a un exemple à Lille, il y a un chauffeur qui a fait plus de 12 000 courses avec Uber. C'est énorme, 12 000 courses. Il avait une note de 4,98. Moi, je n'ai jamais atteint cette note.
C'est sur 5, hein, c'est noté sur 5.
C'est sur 5.
C'est les étoiles, c'est ça.
C'est les étoiles, voilà. Il a eu une plainte d'un client qui a dit qu'il était homophobe. Du jour au lendemain, il a été déconnecté. Vous trouvez ça normal ?
Sans qu'il y ait eu une enquête ou...
Ah non. Dans n'importe quelle société, vous avez un problème, vous allez voir un délégué syndical.
Il n'y en a pas.
Il n'y a pas. Et même en tant que je suis venu, par exemple...
Est-ce que vous êtes considéré comme des auto-entrepreneurs et pas des salariés, donc il n'y a pas ?
Voilà.
Mais il pourrait y avoir un changement majeur à ce modèle. La Californie a ratifié une loi qui devrait obliger les géants de la réservation de voitures à requalifier les chauffeurs de VTC en salariés. En France, c'est la loi Orientation et Mobilité, la loi LOM, qui s'intéresse aux plateformes et aux chauffeurs VTC.
Bonjour, Bérangère Couillard, députée Gironde, et j'ai également été rapporteure de la loi d'orientation des mobilités.
Donc c'est vous qui avez travaillé sur notamment l'article 20, dont on a principalement retenu la charte sociale. Pour quelle raison est-ce que vous avez souhaité qu'il y ait cette charte sociale ?
En fait, un chauffeur ou un livreur ne pourra plus se voir virer d'une plateforme sous prétexte qu'il a refusé une course. Ce ne sera plus possible grâce à la loi.
Et la sanction, c'est quoi ?
Tout simplement, dans ces cas-là, ça peut aller en jugement. Et après, il va y avoir cette charte, donc qui est facultative, avec la possibilité notamment par les plateformes de donner des droits type, par exemple, d'avoir des droits sociaux, comme une mutuelle. Mais c'est facultatif, pourquoi ? Parce qu'en fait, les leaders du marché se sont engagés à la mettre en place.
Alors, en revanche, dans la charte sociale, bon, je lis donc, c'est une charte, comme vous l'avez rappelé, qui est facultative. Alors, il y a une phrase qui peut-être peut, on va dire, ne pas forcément plaire à certains chauffeurs VTC qui peut-être souhaiteraient une requalification. Voilà, je lis. Donc, le respect de certains engagements qu'elle contient, la charte, ne peuvent constituer des indices de requalification de la relation contractuelle en salariat. C'est-à-dire, pas de requalification possible pour autant par cette charte sociale.
Je suis très à l'aise là-dessus parce que ça concerne simplement les critères qui sont à l'intérieur de cette charte. Au-delà, évidemment, le juge reste totalement libre de pouvoir apprécier le fait que ça puisse être qualifié en contrat de travail.
Et ça ne vous trouble pas qu'en Californie, il y ait eu des avancées pour les chauffeurs, notamment une loi, ça y est, qui a été votée ?
En fait, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment un avantage pour le travailleur indépendant à partir du moment où lui-même a fait le choix d'être travailleur indépendant. Par contre, ça ne doit pas se faire à n'importe quel prix et ils doivent pouvoir rentrer dans des phases de négociation. Et c'est ça aujourd'hui qui n'existe pas. Et donc c'est ce que prévoit la loi aussi, c'est-à-dire qu'elle prévoit un an de discussion entre les partenaires, c'est-à-dire entre les plateformes de mobilité et les représentants des salariés, pour qu'ils puissent trouver une forme d'organisation. Parce qu'aujourd'hui, les syndicats dits représentatifs ne les représentent pas. Et donc du coup, il faut qu'on trouve une nouvelle forme de représentation. Et ça, je pense que c'est les acteurs autour d'une table qui peuvent le faire. Évidemment, le ministère du Travail se garde la possibilité de le faire au bout d'un an si les acteurs n'ont pas réussi à se mettre d'accord.
Le marché des VTC est né en 2009 avec Uber. 10 ans plus tard, la question sociale, la question du statut, reste un problème irrésolu. Mais depuis quelques mois, les autorités augmentent la pression. La sociologue Sarah Abdelnour a écrit, avec Dominique Méda, « Les nouveaux travailleurs des applis ».
On connaît le cas californien, mais on connaît peut-être un petit peu moins les décisions assez fortes qui ont été prises au niveau de la municipalité à New York, puisqu'ils ont instauré un salaire minimum pour les chauffeurs, ce qui est une mesure très forte et qui va vraiment à l'encontre du modèle des plateformes, et qu'ils ont aussi limité le nombre de chauffeurs d'applications dans les villes. Et cette décision a été reconduite cet été, ce qui montre bien quand même la préoccupation des pouvoirs locaux et des habitants, sans doute quand même, à cette expansion trop forte du nombre de voitures et les conditions peu décentes de travail des chauffeurs.
Alors j'ai rencontré la députée Bérangère Couillard, députée de La République En Marche, qui nous dit « Vous me parlez du modèle californien, mais en France c'est différent, les chauffeurs souhaitent rester indépendants et ne souhaitent pas être salariés. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vérifié ?»
Alors déjà, vu le nombre de procès qui sont en train d'arriver devant le Conseil des Prud'hommes, ça semble assez peu crédible de dire que les chauffeurs ne souhaitent pas être qualifiés. Ils sont quand même en train de s'organiser relativement massivement, comme les livreurs à vélo, pour demander à être qualifiés. Le problème, c'est que les chauffeurs qui travaillent avec des applications ont très vite fait l'expérience d'une dépendance extrêmement forte à la plateforme, ce qui fait que même si certains ont pu avoir une envie d'être à leur compte, les conditions réelles d'exercice de leur travail les ont amenés à souhaiter finalement davantage être salariés pour au moins bénéficier des avantages sociaux d'être salariés, c'est-à-dire un salaire minimum, un encadrement des heures de travail, des congés payés, l'accès à l'indemnisation chômage, une meilleure cotisation à la retraite, et voilà, tous ces avantages. On sait très bien, enfin, le droit a déjà pris en compte cette capacité à mélanger autonomie professionnelle et statut protecteur.
Il existe dans certaines professions.
Exactement. Les cadres au forfait, normalement les journalistes. Donc je pense que l'innovation, elle est plutôt de ce côté-là que de revenir à des statuts très peu protégés qui ressemblent plutôt aux formes de travail du 19e siècle que l'innovation qu'on nous promet.
Et du point de vue économique, une requalification des chauffeurs en salariés est-elle envisageable ? Frédéric Fréry est professeur de stratégie à l'ESCP Europe.
C'est pas envisageable de requalifier en CDI parce que ça voudrait dire qu'il passerait du droit commercial au droit du travail avec toutes les obligations qui sont afférentes, qui sont tout à fait normales pour des salariés d'ailleurs, mais qui sont absolument pas possibles dans le cadre des finances de Uber. Il faut quand même rappeler que déjà à l'heure actuelle, Uber est dans une situation financière absolument catastrophique. Ce trimestre, ils ont perdu plus que leur chiffre d'affaires, et perdre plus que son chiffre d'affaires, c'est vraiment ce qui peut vous arriver de pire dans une entreprise. Ça veut dire que vos coûts sont encore supérieurs à vos ventes.
Comment c'est possible si on a du mal à imaginer que Uber perde à ce point-là de l'argent, étant donné qu'ils prennent 25% de commission sur chaque course?
Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont dans une industrie, les VTC, mais c'est vrai aussi pour les trottinettes, c'est vrai aussi pour les vélos, c'est vrai pour les livraisons de repas en vélo aussi. Tout ça, ce sont des industries dans lesquelles tous les acteurs sont convaincus d'une expression anglaise qui s'appelle « the winner takes all ».« The winner takes all », le plus gros remportera la mise. Et convaincu de cette histoire du gagnant remporte la mise, qui pourrait s'expliquer par « à la fin, c'est le plus gros qui gagne », et là, ils veulent tous être le plus gros, le plus vite possible. Et donc, ce qu'ils font, c'est que, en fait, ils brûlent de l'argent pour acheter des clients, acheter des parts de marché. En fait, ce que vous payez quand vous prenez un Uber, c'est pas assez par rapport à ce que ça leur coûte véritablement. Ce qui veut dire un truc qui est extrêmement paradoxal, c'est lorsque vous prenez un Uber, en fait, ceux qui payent vraiment pour le coût réel de votre course,
ce sont les investisseurs.
C'est les investisseurs d'Uber. Et tous ces indépendants sont requalifiés en salariés, ça ne va absolument plus du tout, je pense, dans l'équation. Et là, les investisseurs n'y croiront plus non plus.
Alors, selon vous, Frédéric Fréry, est-ce que ce modèle économique d'Uber est tenable sur le long terme ?
Ah non, en tant que modèle économique, il n'est pas tenable, ça, il n'y a pas de doute. Perte de 15 milliards depuis 2008, ils ont largement fait la démonstration que c'était pas tenable.
À 15 milliards de dollars ?
Ah oui, non, c'est monstrueux. Et puis alors, à la limite, vous pourriez vous dire, si le truc du « le gagnant remporte la mise », le « winner takes all », ça marche, ça veut dire que vous allez supporter des déficits pendant plus longtemps que vos concurrents vont finir par jeter l'éponge, et après vous vous retrouvez tout seul. Et là, vous pouvez peut-être remonter les prix et redevenir enfin rentable. Oui mais non, parce que si vous remontez les prix, eh ben il y a des nouveaux qui vont entrer sur le marché.
VTC, quel statut demain pour les chauffeurs ? C'était le reportage d'Anaël Verzo.
Ah, on reçoit une course.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho, Alexandra Ben Saïd.
Et notre invité ce samedi, c'est le leader des VTC en France, le directeur général d'Uber, pour la France, mais aussi pour l'Autriche et la Suisse. Bonjour Steve Salom.
Bonjour.
Alors, vous venez d'entendre ce reportage. J'imagine que vous allez nous dire si vous y avez entendu quelque chose de surprenant. En tout cas, ce qui est frappant, c'est que 10 ans après la création de votre entreprise, le premier des disrupteurs, en fait, on entend toujours la même critique sociale sur le statut, sur la rémunération. Et pas seulement en France, d'ailleurs. Hein. On l'entend en Espagne, aux États-Unis. Ken Loach, le Britannique, vient d'en faire un film. Chez Uber, est-ce qu'on comprend cette défiance encore aujourd'hui?
Bien sûr, et on peut le voir tout, et l'écouter tout au long de ce reportage. Il y a encore énormément de questions sur notre modèle et aussi sur ses implications pour notre société aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui est évidemment très important, donc on les comprend et on essaye autant que possible d'y répondre de la meilleure manière possible avec toutes les parties prenantes, avec les chauffeurs, en les écoutant et en essayant d'apporter des solutions.
Donc le modèle social du début, Uber en convient à présent, n'est plus tenable ? Il faut changer ?
Alors, je pense qu'il faut préciser ce qu'est le modèle du début. Je pense que notre entreprise se caractérise par une croissance extrêmement forte et extrêmement rapide. Donc on a vu énormément de choses qui ont été faites au début qui pouvaient marcher, mais lorsqu'on a grandi aussi vite, ces choses-là ne sont devenues tout simplement pas du tout acceptables. On l'a vu dans la crise culturelle qu'on a vécue en 2017, et on a fait un véritable, comme on appelle, un turnaround. On a vraiment essayé de changer la culture de l'entreprise, essayer de se transformer pour devenir une société qui arrive à continuer de grandir, parce qu'on continue de grandir de manière très forte, d'une manière beaucoup plus pérenne.
Alors, les pouvoirs publics vous pressent dans ce sens, en tout cas sur la question du social. En Californie, c'est le berceau d'Uber. Une loi toute récente pourrait vous obliger à requalifier vos chauffeurs en salariés au 1er janvier prochain. À Los Angeles, c'est le conseil municipal qui réfléchit à un salaire minimum de $30 par heure. New York a déjà instauré un salaire minimum. Bref, c'est en train de s'accélérer, et d'abord chez Uber. Est-ce que votre entreprise est prête pour ce changement? Est-ce qu'elle a les reins assez solides?
C'est une très bonne question et je pense que effectivement tous les exemples que vous venez de mentionner montrent que le questionnement est encore très très fort et qu'on essaie d'y apporter les meilleures réponses possibles.
Là, c'est plus que du questionnement, hein. C'est quelque chose qui va peut-être s'imposer à vous.
Je pense qu'il faut bien revenir sur ce qui s'est passé en Californie. Il ne s'agit pas, alors c'est bien que vous utilisiez le conditionnel, il ne s'agit pas d'une reclassification, c'est-à-dire on n'est pas en train de dire tous les chauffeurs doivent devenir employés. Ce qui se passe en Californie, c'est une codification d'une décision de la Cour suprême de Californie qui va ajouter un test pour pouvoir déterminer s'il s'agit d'une relation de travail ou alors une relation d'indépendance, une relation commerciale. Le fait que ce test soit mis en place et soit plus difficile que le test précédent ne signifie pas qu'on ne peut pas le passer. Et d'ailleurs, nous sommes absolument persuadés que nous allons pouvoir passer ce test. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que aux États-Unis, partout dans le monde et en France également, lorsque l'on pose la question aux chauffeurs, et ça, on l'entend un petit peu dans votre reportage, les chauffeurs ne veulent pas d'une situation de salariat. On a fait une étude de manière complètement indépendante fin 2018, donc l'année dernière en novembre, et 89% des répondants disaient « je veux continuer à être indépendant ».
Le problème, c'est pas l'indépendance, en effet.
Je suis entièrement d'accord.
Ils disent qu'ils sont d'accord pour être indépendants.
Absolument. Et vous avez entièrement raison, c'est vrai que cette indépendance vient aussi avec un certain nombre de responsabilités pour les plateformes. Et nous sommes absolument d'accord avec ce fait de prendre plus de responsabilités. C'est pour ça qu'on prend des engagements. C'est pour ça qu'on a donné d'abord plus de transparence sur les revenus. Alors, on a pris tous les revenus pendant 2018, et c'est vrai que ça, c'est important de prendre une longue
plage.
Alors,
combien ça gagne ?
Un
chauffeur chez vous,
voilà. Le chiffre médian du revenu net de commission, donc net de notre commission qu'on prend, des 25% qu'on prend, est de 25,18 euros de l'heure. Et ensuite, lorsqu'on y soustrait tous les coûts qui sont liés à l'activité de chauffeur, donc c'est-à-dire l'amortisation du véhicule, l'essence, l'assurance, donc tout ce que vous venez de mentionner avant, mais aussi les charges sociales.
La maladie,
absolument tout. Et d'ailleurs, il y a énormément de choses qu'on fait aussi en plus, parce qu'on apporte notre assurance AXA, donc ça c'est quelque chose qu'on offre gratuitement aussi pour tout ce qui est maladie, invalidité, etc. On arrive à un salaire et un revenu net de 9,
un salaire, quel lapsus.
Oui, c'est un lapsus. Et c'est un revenu net de 9,10 euros. On le compare souvent à un salaire, c'est pour ça que j'utilise ce terme.
Oui, bien sûr. Non, mais 9,18 euros, alors d'accord.
Donc alors, on est en médiane. Si vous extrapolez ça.
On est au-dessus du SMIC, là, en net.
Oui, on est au-dessus du SMIC en net. Et ouais. si vous faites le calcul et que vous multipliez ça par 42 heures par semaine, vous allez obtenir 1617 euros. Et vous incluez là-dedans aussi les vacances.
Alors,
donc avec 5,2 semaines de vacances, 42 heures de travail par semaine, vous allez arriver avec un équivalent salaire net de 1617 euros.
1617 euros, mais là vous n'avez pas compté tout le temps d'attente.
Absolument, si, nous le comptons.
Alors, dernière question sur le modèle social quand même. En France, le chemin, il est tout à fait différent. On a entendu, il va y avoir un socle de droits et puis une charte sociale, elle est facultative. Beaucoup de critiques, facultative, ça veut dire que les entreprises vont faire ce qu'elles veulent et qu'elles vont décider seules.
Je ne pense pas que ce soit ce que facultative veut dire. Dans ce cas-là, de notre côté en tout cas, on est assez clair sur le fait qu'on est aligné avec le fait d'avoir une charte sociale. On a envie de le faire, donc on a envie de s'engager. Ce qui est très compliqué, c'est de pouvoir remplir ce rôle de plateforme. Donc c'est vraiment l'intermédiaire entre des clients qui ont envie d'un meilleur service et des chauffeurs qui veulent aussi être protégés et gagner plus d'argent. Et de notre côté, on a envie de leur apporter plus de protection. Mais souvent, lorsqu'on leur apporte plus de protection, ça peut être utilisé comme un indice pour requalifier le travail. Le contrat.
C'est la preuve d'un lien. Si on se sent obligé d'apporter plus de protection, c'est évidemment la preuve d'un lien.
Évidemment qu'il y a un lien. On pense que ce lien est un lien commercial. Aujourd'hui, c'est très très compliqué de prendre les schémas qui ont existé dans le passé et de les appliquer au futur. Surtout lorsqu'on écoute les chauffeurs et qu'on leur demande ce qu'ils veulent. Et qu'ils nous disent, on veut de l'indépendance, mais on veut aussi de la protection. Alors si vous voulez de l'indépendance et qu'on peut vous apporter de la protection, il faut aussi qu'on puisse s'assurer que de notre côté, on puisse protéger cette relation commerciale.
On a bien compris, donc l'objectif c'est de garder les chauffeurs en indépendant. Alors à présent, l'actualité, une actualité économique. Oui. Après les VTC, les vélos, les trottinettes, Uber va proposer des scooters électriques. Votre ambition, c'est de devenir l'Amazon des transports.
Absolument. Notre ambition est de devenir une plateforme des mobilités. On pense que les besoins de mobilité ne sont pas uniquement sur un seul segment. Alors, on a commencé sur celui des VTC et aujourd'hui, on a une présence qui est très large et très profonde sur ce segment-là, puisque aujourd'hui, vous connaissez UberX, mais aussi il y a UberPool, mais plusieurs personnes qui vont dans la même direction. On a UberAccess, personnes à mobilité réduite, UberGreen, une offre plus écologique, etc. Et aussi, on a une présence qui est très profonde, puisqu'aujourd'hui, on est présent pour 3 millions d'utilisateurs, 30 000 chauffeurs, 24 villes, 500 communes.
Vous voulez devenir incontournable. The winner takes. Mais ça, ce sont...
ce sont uniquement les VTC. On a lancé plutôt cette année Jump avec une offre de micro-mobilité, donc trottinette et vélo électrique. On a lancé aussi la possibilité de planifier votre trajet en transport en commun pour toute l'Île-de-France. Plutôt, c'était il y a quelques semaines. On a aussi une super app qui nous permet...
Une application.
Une super application qui vous permet d'avoir en fait les offres de services de mobilité et les offres de services de livraison de nourriture. Et on a annoncé mercredi dernier... le lancement des scooters électriques CityScoot dans l'application Uber avec une expérience sans couture pour les utilisateurs qui nous permet vraiment de venir compléter les besoins de mobilité.
Donc c'est bien ça la stratégie finalement. Ce que dit écrit dans le reportage le professeur de stratégie, c'est il faut être leader dans cette industrie particulière. La stratégie,
nous sommes
c'est
aujourd'hui
qu'il faut être
le leader.
Il faut être le plus gros et rester le plus gros et devenir incontournable, c'est ça?
Je pense aujourd'hui, et je suis sûr d'ailleurs aujourd'hui, que nous sommes le leader sur le marché, en tout cas du VTC, et on essaie de devenir le leader des plateformes de mobilité aujourd'hui. C'est évident que c'est un marché, je ne pense pas que ce soit un marché de winner takes all. On dit souvent que c'est le cas, aujourd'hui on pense que c'est un marché plutôt de winner takes most.
Le gagnant, c'est celui qui aura la plus grosse part de gâteau.
Probablement. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous sommes le leader dans la plupart des pays et nous continuons de travailler en partenariat avec les pouvoirs publics, avec les villes, avec aussi les chauffeurs et les utilisateurs pour nous assurer que ce modèle-là soit compatible avec les souhaits d'absolument toutes les parties prenantes.
Donc Uber fait plus que ça s'agir. Uber a changé d'ADN, là. C'est ça que vous êtes en train de nous décrire.
Absolument. Je pense qu'Uber a changé d'ADN. Mmh. On n'est plus le disrupteur. On est aussi en train d'essayer de faire en sorte que dans les 5 à 10 prochaines années, on ne se fasse plus disrupter. On a envie de faire en sorte de continuer d'investir sur le long terme. Donc, on parlait avant des investissements. C'est pas uniquement le court terme, c'est aussi le long terme. C'est faire en sorte qu'on continue d'investir dans les voitures autonomes, d'investir dans les véhicules électriques volants, de continuer d'investir dans la recherche et le développement, dans l'intelligence artificielle, et faire en sorte qu'aujourd'hui, mais aussi dans 5, 10, 15, 20 ans, on soit toujours le leader dans la mobilité.
Allez, la dernière question. On a donc entendu aussi un professeur de stratégie qui émet des doutes sur le modèle Uber. Hein, Uber qui n'est pas rentable, qui est leader, qui est conquérant, mais qui brûle beaucoup d'argent. Uber qui licencie, je crois qu'on en a un millier de personnes pour la planète hein, cette année. Est-ce que c'est la crise ?
Je ne pense pas que ce soit la crise du tout. On a une ambition qui est très forte, une ambition de devenir une plateforme pour tous les usages quotidiens. Cet objectif est très ambitieux et nous allons prendre le temps nécessaire pour y arriver. Il faudra mesurer notre performance sur le long terme et pas sur le court terme. Nous sommes aujourd'hui une boîte qui est cotée depuis seulement quelques mois, à peu près 4 ou 5 mois. C'est très très court encore à l'échelle d'une entreprise comme la nôtre. C'est pour ça que nous continuons d'investir, non pas seulement sur le court terme, mais sur le très long terme aussi.
Steve Salom, le directeur général d'Uber France, merci d'avoir
merci
été sur
vous.
France Inter.
Merci.
Sandrine Foulon, allez, on revient au débat sur les retraites. En quoi consiste exactement cette clause du grand-père? Est-ce que cette clause est juste? C'est ce que vous demande Olivia, une quinca qui ne sait même plus si elle sera concernée par la réforme à point.
La clause du grand-père, Olivia, c'est une clause d'antériorité. La loi ne s'applique qu'aux nouveaux entrants. Pour la retraite, ça voudrait dire que seules les personnes qui commenceront à travailler en 2025 seront concernées par les nouvelles règles. Le grand-père peut dormir tranquille dans son rocking chair. Les petits-enfants, eux, ceux qui sont nés au début des années 2000, devront travailler plus longtemps pour payer la retraite des anciens. Est-ce juste ? Pas tellement, la clause du grand-père rassure ceux qui sont en poste et renvoie la patate chaude à plus tard. C'est jouer génération contre génération. En plus, ça crée des inégalités entre salariés. Du jour au lendemain, une jeune infirmière libérale qui débute paierait le double de cotisations que sa collègue plus ancienne. En réalité, cette clause sert surtout à faire passer la pilule d'une réforme. À la SNCF, le pacte ferroviaire voté l'an dernier a maintenu le statut de cheminot pour ceux qui sont en place, mais elle le supprime pour tous les agents qui seront recrutés à partir du 1er janvier prochain. Le gouvernement promettra-t-il la même chose à la RATP?
Et Sandrine, du coup, est-ce que ça serait mieux si tout le monde était concerné en même temps par la réforme?
Ce serait sans doute plus acceptable, mais techniquement, la période de transition d'une quinzaine d'années pour que tout converge vers un seul système à points ne devrait pas être la même selon les secteurs et les métiers. Le tout est de ne pas donner l'impression que certains seraient avantagés et d'autres non. Et dans l'immédiat, c'est surtout la grève du 5 décembre qui inquiète l'exécutif pour déminer le terrain. Le plan B serait donc soit d'appliquer la clause du grand-père pour certains ou pour tout le monde, soit de reporter l'application de la réforme au-delà de 2025. Ce ne serait plus la génération de 1963 qui serait concernée. Ça va dépendre des discussions entre le gouvernement, les représentants des différents secteurs et les citoyens. Entre octobre et décembre, il devrait y avoir 380 réunions. L'idée d'un report n'est pas franchement une surprise. Tout est écrit noir sur blanc dans le rapport de Jean-Paul Delevoye, page 25. Mais l'urgence de donner du temps au temps se précise. La question est de savoir si c'est reculer pour mieux sauter ou pour mieux s'arrêter.
Eh oui, Sandrine Foulon, ma vie au boulot.